entre Guzmán y Ocasán Regatal. J'ai reçu totalement cette
histoire. Moi, j'ai fait une diplomatie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, peut-être que je devrais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, en marge de la Journée mondiale du travail, parole aux auditeurs à son émission sur l'accès à l'emploi. Selon les statistiques tirées du DCRP, le document stratégique de réduction de la pauvreté, grâce à des études menées par le Bureau international du travail et la Banque centrale du Congo, le chômage et l'auto-emploi englobent une grande partie de la population congolaise. Actuellement, lorsqu'on ne prend en compte que le secteur formel, le taux de chômage est estimé à 96%. Dans le contexte socio-économique et politique actuel de la RDC, que faut-il faire pour créer de l'emploi? Nous avons invité pour vous M. Georges Kombo. Il est un ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Congo. Sissi Foutou, Pierre Lamézé et Guy Mandambou sont à la réalisation de cette émission. La présentation par les Chantalimba.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Notre invité est déjà en ligne. Bonjour Monsieur Kombo.
Bonjour madame.
Bonne fête du travail, aujourd'hui c'est la journée de tous les travailleurs, mais nous aujourd'hui nous axons notre émission sur ceux qui n'ont pas de travail, sur ceux qui sont en plein chômage. Les derniers chiffres, on estime à 96% le taux de chômage lorsqu'on prend en compte le secteur formel. En tant qu'ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs, est-ce que ces chiffres vous inquiètent?
Bien sûr, madame, le chiffre est inquiétant, c'est bien sûr. Mm-hmm. Normalement, on juge tous les gouvernements, tous les gouvernants, on les juge en fonction de leur capacité de donner du travail aux gens. Mm-hmm. Vous savez, de par le monde, les baromètres maintenant pèsent surtout au niveau de l'emploi, le chômage. Mm-hmm. Et c'est ça qui motive les gens à produire, c'est ce qui motive les gens à consommer. Donc, c'est un chiffre non seulement effrayant, mais écœurant. Mmh. Et pour notre pays, ça doit inquiéter tout le monde.
Et c'est dans le secteur formel, nous savons qu'en RDC, la plupart des Congolais, même au regard de ce rapport, du document stratégique de réduction de la pauvreté, et même de ces études menées par le Bureau international du travail et la Banque centrale du Congo, la plupart des chômeurs, sont tous ceux qui s'auto-emploient, sont dans le secteur informel. C'est aussi des chiffres qui démontrent que ce serait assez difficile de lutter contre la pauvreté.
Oui, mais vous pouvez lutter contre la pauvreté en faisant le petit commerce. Mais le petit commerce, madame, ne vous conduit pas nécessairement vers l'épargne, c'est-à-dire l'assurance vie, la garantie. Mmh. Le petit commerce, c'est vous dites bien, de l'informel. Ça ne permet pas au pays de produire suffisamment, parce que l'impôt qui est impliqué au petit commerce n'est pas un impôt humain. Ça, c'est l'homme d'abord qui doit être au centre des préoccupations d'un État, d'un pouvoir. Alors, si l'homme n'est pas pris en compte, c'est-à-dire si l'homme, si la politique de l'emploi d'un État ne tient pas compte du nombre de chômeurs et surtout de l'évolution de ce nombre, est-ce qu'il est en décroissance, est-ce qu'il est en croissance? On doit tenir compte de ça, parce que plus vous avez de chômeurs, plus vous avez des problèmes sociaux. Évidemment, vous avez aussi l'augmentation de la criminologie, vous avez l'augmentation du banditisme, vous avez tous ces fléaux qui surgissent, parce que les gens ne travaillent pas réellement, les gens n'ont pas une assurance, Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi pour obtenir ou bien essayer d'atteindre un certain sujet.
Au regard de ce tableau que vous venez de peindre, c'est pourquoi aujourd'hui nous posons la question aux auditeurs, c'est de savoir que faut-il faire pour créer de l'emploi. Si vous êtes en train de nous suivre en ce moment, que vous soyez en FM ou connecté sur www.radiocapu.net, vous avez trois possibilités. Vous pouvez composer le 081-890-6315, le 081-890-6315, vous écrire à l'adresse internet ca@radiocapu.net ou encore poster votre avis sur la page Facebook. Monsieur Georges Combeau, restez avec nous, le temps d'écouter une première série d'auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Jean Sengui.
Bonjour Marie Chantal, bonjour parole aux auditeurs.
Nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour créer de l'emploi en RDC?
Ok, merci beaucoup d'abord pour m'avoir accordé la parole pour l'émission d'aujourd'hui et je souhaite bonne chance à tous les travailleurs, y compris vous. Ok, alors moi je voulais proposer, avant la proposition, je voulais dire que notre pays, ce n'est pas les gens qui manquent, ce ne sont pas les bonnes têtes qui manquent pour travailler. Mm-hmm. Alors maintenant, le groupe a décidé la stratégie. Premièrement, il faut qu'on crée les industries dans tous les pays. Avant de créer les industries, il faudrait réhabiliter les routes. Parce que dès que les routes sont réhabilitées, les investisseurs peuvent se planter dans n'importe quel coin du pays et à partir de ces coins-là, ils peuvent créer tout ce qu'ils peuvent dans les grands centres, dans les grandes villes. Alors, à partir de là, déjà, les gens auront du travail. Et quand ils ont du travail, on n'a plus besoin de venir remplir la capitale avec pas mal de gens. Des gens qui vont vendre initialement. Alors, après, quand on va créer des sociétés, de différentes sociétés, mais aussi rémunérer correctement les travailleurs. Alors, au niveau de l'État ensuite, au moins, ceux qui travaillent déjà, améliorer leurs conditions, en leur donnant un salaire quand même digne, et puis surveiller le travail qu'ils font. Parce que nous constatons que dans la plupart de nos bureaux, ici à la capitale ou partout, les gens vont seulement. Ils vont au travail justement pour fumer. Et ils ne parlent pas pour quelqu'un qui rentre.
Mais il n'y a pas un bon rendement.
Oui, il n'y a pas un rendement. Et quand il n'y a pas un rendement, c'est le gouvernement qui perd. Et quand le gouvernement perd, c'est la population qui en souffre. Alors, ça ne va pas.
C'est pour les services.
Oui, c'était aussi les listes ou bien, disons, des noms de personnes fictives. Un enfant d'un an, vous trouvez son nom sur une liste quelconque et on perd l'argent pour lui, alors qu'il ne travaille pas. Vous voyez. Donc, éviter ces magies-là, et ça va permettre à ce que les hommes, les intellectuels qui sortent de l'université puissent travailler et puis apporter l'argent dans la République pour construire ces grands pays.
Mmh.
Alors, pour terminer, dans le domaine médical, par exemple, construire des hôpitaux dans les différents coins du pays, et ce grand pas seulement dans les capitales, puisqu'on le vit souvent, les soins, les plus destinés, où la population perd des petites maladies, faute des soins. Alors, à partir de là, on se va former les médecins, les infirmiers, les infirmières, tout ça, et ils vont s'occuper des soins de la population, puisque si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas travailler, et le pays va rester toujours dans la misère, et puis on aura toujours la politique de la méfiance.
Merci, Jean Sengui. Vous êtes allé sur les deux secteurs, le privé, le public. Dans les privés, il faut qu'on puisse améliorer, qu'on puisse installer des industries. Vous êtes aussi allé dans le sens du public, voir dans quelle mesure assurer un bon rendement de ces travailleurs. Vous êtes allé aussi dans l'accès aux soins de santé pour que on puisse voir dans quelle mesure prendre soin des fonctionnaires de l'État, mais d'une manière générale aussi la rémunération. Merci Jean Sengui de Kinshasa. Théodore Vétambujme, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal.
Et à votre avis, que faut-il faire pour créer de l'emploi en RDC?
Ok, avant de donner ma petite proposition, je vais montrer que la situation socio-économique en matière d'emploi est partie business en 90 à 2000. Le secteur formel, par sa branche privée, a connu une crise aux conséquences socio-économiques multiformes dues à la crise politique. Au pillage de 1991-1993, à la guerre de 1996 et celle de 1998, cela a provoqué une rupture en fourniture des approvisionnements en matières premières entre Kinshasa et l'arrière-pays. La baisse de la production et cette flexibilité, entraînant les congés techniques de la part de certains travailleurs et la fermeture pure et simple des entreprises, ce qui, en fin de compte, engendre aujourd'hui les phénomènes du chômage et des sous-emplois. Vous savez, dans l'économie informelle où nous sommes aujourd'hui, c'est très difficile. Comme ici, par exemple, ici, c'est l'Angoujimaï. Vous savez qu'à l'époque, l'ANIPA injectait 2,5 millions de dollars sur le marché, sur terrain, à l'époque. Et cela faisait qu'il y avait l'argent qui circulait, il y avait la situation des livres qui était vraiment tenable. Mais aujourd'hui, c'est difficile. L'informel, tous ces mondes sont dans l'économie informelle. Vous trouverez un ministre qui a une boutique. Vous trouverez un agent de l'État qui a une boutique, dans l'informel toujours. Et aujourd'hui, tous les agents de l'État, leurs yeux sont braqués dans l'économie informelle. Il faut y aller, fixer des taxes. Il faut y aller, prendre les impôts. La SMIG même aujourd'hui qu'on devrait appliquer aux services formels de l'État, on vient avec la SMIG dans les formels. Les formels où le secteur du travail ne passe jamais pour faire le travail. Et aujourd'hui, les formels en bougement, je vous dis, les gens sont en train de partir. L'exode, je l'aime. Ils sont en train de partir les formels. Ici, quoi? Les impôts et les taxes. Et pour proposer, je propose qu'aujourd'hui, notre pays doit recréer le partenariat avec les créateurs d'emplois pour que ces partenaires viennent de nouveau investir chez nous, au Congo. Mm-hmm. Pour cela, il y a aussi la loi. La loi établit le statut des travailleurs, les règlements des ordres professionnels. Le travail, vous savez que le travail c'est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Mm-hmm. L'État doit garantir les droits du travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable qui est satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente à la vie. Merci.
Et ça, c'est même l'article 36 de la Constitution que vous venez de lire. Merci beaucoup, Théodore de Mbujimaï, de votre façon de voir pour pouvoir améliorer, pour pouvoir créer de l'emploi en RDC. Et je rappelle nos contacts 081-890-6315, ou écrire sur la page Facebook Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Combo, vous avez suivi nos deux premiers auditeurs. Ils ont fait à leur manière comment ils pensent qu'on peut créer de l'emploi en RDC. Il y a eu par exemple Jean Sengui qui estime qu'il faudrait attirer les investisseurs, cela permettrait de pouvoir implanter des industries. Il y a aussi Théodore qui a donné l'exemple de l'Amiba, l'époque où elle fonctionnait correctement, et actuellement, comme elle est en pleine faillite, c'est assez difficile de pouvoir créer de l'emploi dans un secteur qui vivait au rythme d'une entreprise comme l'Amiba. Tout cela revient à l'amélioration du climat des affaires. Quel est votre point de vue au regard de ces propositions de nos auditeurs?
Merci madame. Je salue les deux camarades qui ont donné suffisamment de mis de la lumière sur ce qu'est l'emploi, bien sûr. Mm-hmm. Le travail et enfin le droit du travail. Mm-hmm. Je pense que là, nous cherchons trop loin. Mm-hmm. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui n'est même pas comparable à celle que nous avons vécue en 1958. Si nous étions seulement rentrés dans notre situation de 58-59, à ce moment-là, le Congo belge et le Rwanda, nous étions cotés parmi les pays, à l'époque, parce qu'on parlera, on ne parlera pas des marchés, les pays en développement. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, nous sommes en deçà de ça. Même la notion du travail, madame, Vous savez, c'est lui qui travaille, mais qui n'est pas rémunéré. Je dis bien n'est pas rémunéré, parce que la rémunération implique que l'on ait un salaire, et qu'on ait des indemnités, et qu'on ait des faveurs susceptibles de garantir un revenu consistant, y compris l'épargne. Mais si celui qui n'est pas, il soi-disant travaille, mais n'est pas rémunéré en conséquence, donc il est sous-employé. Par conséquent, on ne peut pas parler d'un salaire, on ne peut pas parler d'une rémunération. Ce sont des primes qu'on on paye à tout le monde ici chez nous. Vous avez toutes ces grèves réelles, comme des grèves perlées. Hein, et je crois que Jean qui a évoqué l'histoire des gens qui viennent au travail, hein, mais qui ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'ils viennent fatiguer quelqu'un qui part de Matina. En prenant l'exemple des intéressants à pied, il arrive en ville, il a mis 2 heures ou 2 heures et demie de marche, après il va peut-être travailler, bien il va être présent.
Une seconde. Nous avons des problèmes avec la liaison téléphonique de M. Kombo, le temps que c'était pour tout, que Réaménger et Dimandango puissent recontacter notre invité qui est en train de réagir face aux avis de Jean Kenji de Kinshasa et Théodore de Mbujimayi. Prenons d'abord Fataki qui se trouve également à Kinshasa. Bonjour. Nous avons perdu également Jean, plutôt confiance de Kinshasa. Nous allons à Isiro également. Fataki était déjà en ligne, mais toujours ce problème avec ces liaisons téléphoniques. C'est difficile de réaliser l'émission si ces difficultés techniques persistent, mais nous allons quand même tenter de poursuivre, de pouvoir recontacter nos auditeurs, parce qu'ils sont assez nombreux, ceux qui veulent donner leur point de vue concernant l'accès à l'emploi en RDC, comment créer de l'emploi en RDC, c'est ça la question centrale. Notre invité, c'est M. Georges Kombo, il est ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Congo. Et en écoutant nos deux premiers auditeurs, Jean Sengui et Théodore, ils sont revenus sur quelques faits qui ne permettent pas d'accroître l'emploi en RDC, donc des faits qui permettent qu'on ait un taux assez élevé de chômage, parce que les derniers chiffres dans le secteur formel, le taux de chômage est estimé à 96%, c'est assez inquiétant, et la plupart des personnes, des Congolais et Congolaises, sont versées dans le secteur informel, et c'est assez difficile. Titine Poutou me fait signe que notre invité est à nouveau en ligne. Monsieur Kombo, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, madame.
Oui, on a eu des petits problèmes, mais vous êtes là. Donc, vous êtes en train de nous expliquer que c'est assez difficile au regard de la situation politique de notre pays. Vous avez essayé de faire un parallélisme entre la situation de 58-59 et à ce jour. Nous vous écoutons.
Oui, madame, c'est ce que j'ai dit. J'ai fait une petite comparaison. Mais je vous assure que j'ai insisté sur la notion du salaire par rapport à la rémunération, et de dire que peu sont ceux qui sont réellement des travailleurs. Parce que vous savez, pour parler chômage, cela veut dire que celui qui gagne, qui a un salaire conséquent, il n'est pas chômeur. Mais celui qui est sous-employé, parce qu'il est sous-rémunéré, mais c'est aussi un chômeur. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les conditions du travailleur. Travailleur qui vend son corps, son esprit, son intelligence, il a une rémunération. Chez nous, cette notion-là n'existe pas. Vous dites, comment faire pour créer de l'emploi? De par le monde, madame. Ceux qui sont aujourd'hui les grandes puissances ont commencé par le secret, qui est un secret de polichinelle aujourd'hui, par l'agriculture. Mais faudrait-il qu'il y ait une volonté politique pour que ce domaine qui peut offrir de l'emploi à tout le monde, à tous les niveaux, ce domaine qui peut éliminer l'exode rural qui est engendré par les mauvaises conditions de vie à l'intérieur, ce domaine agricole, s'il y avait et pouvait rencontrer la volonté réelle des politiques pour que la priorité des priorités, chaque fois, parce que tout le gouvernement ici parle des priorités dans l'agriculture, mais quand on voit le budget affecté à ce domaine, et tout, c'est presque zéro, c'est là que nous pouvons trouver des débouchés pour engager les gens, faire un travail, même s'il était informel, si c'était un travail de mais si ça produit et ça donne un revenu consistant, cet homme-là qui est agriculteur emploierait sûrement d'autres hommes. Donc de l'agriculture artisanale, nous pourrions parler de l'agriculture mécanisée et après parler de l'industrie. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens tendent sur ses amis, quand ils parlent de il faut que nous ayons des industries, vous ne pouvez pas avoir des industries là où il y a la méfiance, là où la monnaie est sans base, là où il y a la guerre, là où donc les gens ne peuvent pas placer leur argent faute de sécurité monétaire, de sécurité sociale, de sécurité politique. Alors ce sont ces choses-là, et nous, même le Congolais, autrement choisissiers, nous nous accoutumons, nous prenons comme si, je suis dans l'informel, le matin, on prend son petit sac, on va aller errer partout et auprès des amis pour mendier, et vous ne pouvez rien dire. Or, maintenant, les gouvernements, et je rentre dans ce que j'avais mis comme introduction, les gouvernements sont jugés en fonction de leur capacité de donner du travail aux citoyens.
Mais lorsque vous parlez de l'agriculture, est-ce que cela veut dire que tout le monde doit avoir un champ ou bien c'est toute la chaîne de la production jusqu'à la vente d'un produit fini dans une boutique?
Vous savez, madame, nous avons ici plusieurs, on dit, parce que vous passez ici, on vous dira, ça c'est la ferme d'un tel, la ferme d'un tel, la ferme d'un tel, mais quand vous entrez dans toutes ces fermes, 90%, ce sont des fermes dépourvues de quoi que ce soit. Sauf les herbes et peut-être quelques bicoques pour protéger la surface. Mais si seulement il y avait une politique, à l'époque, pour venir à Kinshasa, vous devriez avoir, c'est peut-être colon. On lui fait dire, voilà, ce sont des colonialistes. Non. Mais si c'est pour votre survie, mais envoyez les gens là où ils peuvent produire, créer, acheter des engins agricoles pour que les gens aient des crédits agricoles. Nous n'avons aucune banque de crédits agricoles ici. Nous n'avons presque rien pour la classe moyenne, pour la promotion de la classe moyenne, pour que nous ayons les petits emplois. C'est vrai, hein, nous avons connu ici des mauvais moments avec les troubles que nous avons connus en 1997 et qu'on sort. Bon, mon ami l'a souligné. Mais après, on a créé quand même une classe moyenne. On a demandé aux Congolais de remplacer le Portugais, le Libanais, les consorts pour avoir des magasins. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Tout ce que nous avons fait, c'est de prendre l'argent qui se trouvait dans les magasins. Et aujourd'hui, ce sont des magasins qui sont tous propriétés presque des Congolais. On trouve les Congolais dans le petit marché, dans plus rien, en train d'acheter auprès du gros CPT en même temps. Denis Bossiste et en même temps lui-même aussi commerçant, on trouve les étrangers qui arrivent ici pour vendre des cacahuètes et qu'on sort. Alors, c'est ça qui est un problème de politique. Il faut que les dirigeants du pays se mettent en tête que l'homme doit être au centre des préoccupations. Et donner du travail à l'homme, c'est garantir la sécurité, même économique, du pays. Mmh. Et si la sécurité économique, passant par la sécurité sociale, est garantie, eh bien, il y a la stabilité politique. Voilà pourquoi est-ce que nous croyons que c'est un problème qui doit faire l'objet de beaucoup de débats et que les gens dénoncent le chômage. Le chômage, ça c'est un crime. Dans d'autres cieux, il y a des gens qui disent, bon, si je ne trouve pas de l'emploi, eh bien, je me tue.
Merci beaucoup, M. Kombo. Restez avec nous. Nous allons écouter Confiance de Kinshasa et Sébastien de Kongolo.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Confiance.
Bonjour, Marie-Chantal. Bonjour, Radio Okapi. Joyeux anniversaire et bon travail.
Merci. Et que faut-il faire pour créer de l'emploi en RDC?
Sincèrement, M. Kombo a tout résumé. Sincèrement, tout ce que j'allais dire a été dit par M. Kombo. Je pense que s'il faut ajouter quelque chose pour améliorer l'accès au travail, moi je pense qu'il faut d'abord créer ce travail-là, comme on l'a dit.
Et qui doit créer l'emploi, à votre avis?
Oui, créer de l'emploi. En fait, moi je pense, à ma grande connaissance, c'est d'abord l'État. C'est d'abord l'État. C'est-à-dire avoir d'abord à la tête de l'État des personnes ou des autorités n'ayant pas en tête de s'appeler de bonnes intentions, mais des personnes animées réellement du besoin de créer des emplois. C'est-à-dire des gens qui agissent. Qui agissent. Parce qu'en réalité, il y a un grand fossé entre la parole et l'acte. On peut bien sortir des lois, on peut bien dire que pendant des campagnes électorales, nous allons faire ci, nous allons faire cela, mais en réalité, en exécution, nous ne voyons pas ces gens-là agir dans ce sens-là, poser des actes. Poser des actes. Vous êtes sans ignorer, Marie-Chantal, que dans la plupart des cas, le plus grand employeur se trouve être le secteur privé.
Mmh.
Or, celui-ci, parfois, est étouffé par le climat des affaires au Congo, qui mérite d'abord d'être amélioré. Car celui-ci, lorsqu'il est amélioré, la création d'emplois devient automatique. Hein, elle devient vraiment automatique. Dans le secteur formel, comme vous l'avez dit, dans le secteur formel ou dans le secteur étatique, il faudrait faire partir honorablement en retraite les fonctionnaires à l'âge de l'être. Vous avez depuis une dizaine ou une quinzaine d'années qui a de nos parents, de nos pères qui ont déjà atteint l'âge de la retraite. D'autres sont même allés en retraite, mais sans être payés. Alors, par le fait de ne pas être payés, ils sont encore là en train de tournoyer dans le bureau. C'est ce qu'il faut faire. Il serait mieux de faire partir ces gens-là honorablement. Quelqu'un qui a fait passer 35, 40 ans de sa vie en train de travailler avec tout ce qu'il y a comme sécurité sociale, le faire partir honorablement pour qu'il laisse un espace vide qui permettra à ce qu'on puisse employer ce qu'ils ont de l'université. Donc, il faudrait nécessairement une volonté politique pour que le budget alloué à la création des emplois soit un budget important. Mm-hmm. C'est toute cette histoire d'expérience professionnelle. Moi, j'aurais souhaité personnellement qu'on supprime cette histoire de comment voulez-vous donner du travail à quelqu'un qui vient de quitter une université et vous lui demandez une expérience professionnelle. Or, cela n'est pas arrivé que dans les entreprises des privés qui, eux, ont un but lucratif. Ils ont investi, ils veulent avoir l'argent. Or, si l'État pouvait créer des opportunités d'emploi, il ne demanderait pas directement une expérience de 5 ans à quelqu'un qui vient de l'université. Donc, automatiquement, on est en train d'exclure ces gens qui viennent, qui se sont déterminés à étudier, ces gens qui se sont sacrifiés pour étudier, mais quand il faudrait maintenant avoir de l'emploi, on leur demande une expérience. Où est-ce qu'ils vont trouver cette expérience-là? Moi, je pense qu'il faudrait supprimer cette histoire-là d'expérience professionnelle.
Merci, confiance de Kinshasa. Sébastien, vous êtes à Komodo, bonjour.
Bonjour, madame. Saint-Paul a dit qu'il ne travaille pas, mais il ne travaille pas non plus. Pendant un RDC, il s'avère que ceux qui ne travaillent pas peuvent demander le chômeur, même si les vies n'est pas totalement différente de ceux qui travaillent. On dirait, et nous voyons d'ailleurs, que ce pays est passé au gros façon, c'est-à-dire ceux qui vivent ce pays à tous les niveaux. Les gros façons qui construisent leur maison font n'importe quoi en dépitude pendant que les patrons derrière les massacres que nous sommes subissent leurs lois. Je pense même que cette journée du 1er mai, leur inconstaté car ne décrit pas qu'ils font depuis les qui poissons en guise d'ironie. Et un trompe-l'œil, à vrai dire, est-ce que c'est avec les décennies que le sort des travailleurs n'est pas simple que nous sommes va changer leur vie, quand on constate que ce sont les sous-provinces, les régions qui font défiler les enseignants dans différentes provinces sans scrupule. Voilà ma suggestion.
Et là, vous avez fait une analyse de la situation actuelle, mais à votre avis, que faut-il faire pour créer de l'emploi?
Pour créer de l'emploi, il faut la bonne volonté pour ceux qui nous gouvernent. Hein. Il faut vraiment une bonne volonté.
Une volonté politique. Sébastien de Kongolo, merci. Nous allons à Christian Dany. Christian, bonjour.
Bonjour, madame.
Et nous vous écoutons, Christian.
Ah oui. Attendez, d'abord, c'est sûr. Non, je suis pour ça.
ça fait tellement mal au cœur. Je ne suis pas du côté de l'intelligence, parce que ça a l'air...
Non, si pour prendre dans le secteur formel, ça veut dire que si on faisait des études, parce que en RDC, il n'y a pas vraiment beaucoup de chiffres, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont menées pour savoir d'une manière globale, en faisant une addition avec le secteur informel, on aurait peut-être d'autres chiffres. Mais là, pour le secteur formel, parce que là, au moins, on connaît le nombre des fonctionnaires, on connaît le nombre d'entreprises, on connaît un peu les agents qui travaillent, on arrive à 96% le taux de chômage. Donc, seulement 4% de la population a accès à un emploi, et ce, dans le domaine formel. Et Christian, vous êtes à Kisangani, ces chiffres vous choquent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer de l'emploi en RDC, que le secteur informel peut-être soit viré dans le secteur formel? Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on ait suffisamment de l'emploi en RDC?
Oui, je crois avant de donner mes propositions, j'aimerais aussi, en fait, l'inviter ici, lui poser peut-être en parce que je ne suis pas tellement ce que quand quelqu'un, par exemple, tiens, sa famille téléphonique, je peux dire qu'il fait ma foi, parce qu'actuellement, c'est fait sur ça. Non, quelqu'un est très... sa cabine, on dit, voilà, création d'emploi, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait le commerce, on dit, non, voilà, il a fait un emploi. Et je me demande vraiment c'est quel message comme une sorte d'emploi. Mais au-delà de ça, je suis vraiment complètement d'accord avec l'invité de ses analyses. Je me dis même que il allait être excellent. Oui. Alors, moi, j'aurais à proposer, je crois, la volonté politique, la priorité, la création
de l'emploi. Merci, Christian de Kisangani. Nous allons à Kananga. Corneille, bonjour.
Ok, bonjour, madame Marie Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi et bon anniversaire.
Merci. Nous vous écoutons. Que faut-il faire pour créer de l'emploi?
Ok, madame, faisons d'abord le cours au chiffre que vous avez fait à l'émission avant de commencer l'émission. J'ai même honte d'être appelé Congolais. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans les pays où on dit qu'on est riche en tout, surtout en numérique, quand on manque de l'emploi et on estime le chômage à 96%, là je peux dire que le taux de l'emploi est à 1%. Et le taux de l'emploi est réservé n'existe aux députés et aux ministres. C'est qu'ils suivent les conditions de l'emploi, les indemnités de travail, les indemnités de transport. Pour vous proposer, je viens un peu proposer qu'on puisse un peu insister sur la retraite des fonctionnaires de l'État. Pourquoi? Je pense d'abord de l'inscription à la déduction. Ici à Kananga, on voit dans une entreprise publique où un papa peut travailler plus de 50 ans et il n'y a personne qui va lui retraiter. En plus de cela, vous voyez un papa qui travaille dans une entreprise quand il est chef, par exemple, chef de division, agent payeur. Donc, il doit mettre sur la liste des travailleurs même ses 10 enfants qui ne viennent pas au travail. Et à chaque fois qu'il y a salaire, le même papa là va prendre l'argent et le mettre dans son propre compte. Il y a personne qui vient pour le contrôler. Je vais peut-être demander que l'État puisse mettre des dispositions, donc les dispositions qui s'imposent pour contrôler de tels genres de papiers qui circulent dans les divisions. Ça, c'est un. Deuxièmement, je voulais un peu demander à l'État de créer l'emploi. Quand l'État crée l'emploi, ce n'est pas ce que je veux dire que pour l'instant, c'est le privé qui doit créer l'emploi. Parce que ici à Kananga, si on demande à quelqu'un d'introduire son dossier dans les secteurs publics ou dans les institutions publiques, il va rester pourquoi? Compte tenu de la rémunération. La rémunération insuffisante, c'est pour ça être à l'informel ou faire travailler sur le privé. Par exemple, à la Monaco,
nous avons Oui, nous avons des problèmes avec votre liaison téléphonique. Essayez un peu de vous déplacer un tout petit peu. Peut-être qu'il y aura une amélioration. Donc, Corneille, en conclusion, création de l'emploi, vous avez parlé de la mise en retraite des personnes qui ont atteint l'âge dans la fonction publique. Vous avez aussi fait allusion à pouvoir favoriser en fait la création de l'emploi dans le secteur privé. Autre chose à ajouter, Corneille?
Ok, je voulais ajouter ceci, madame. Quand on dit de créer l'emploi, ce n'est pas ce qui veut dire que l'État doit d'abord commencer à créer l'emploi par les entreprises minières ou les entreprises de finances. Non, l'État doit d'abord commencer avec les petites choses. Par exemple, créer des cabines publiques, des ateliers de coupe et coupure, des cybercafés. Je vous donne un exemple, madame, ici. Hein? Alors, au moment des séries pratiques, je suis un peu désolé pour nos amis finalistes. On demande à nos amis là de payer l'argent des séries pratiques, mais arrivant sur le terrain, on leur impose encore de payer une somme là exorbitante pour louer un cybercafé, pendant que l'État manque même un cybercafé. Vous voyez un peu que c'est un peu décevant.
Oui, merci, Corné. Donc, à votre avis, il faudrait qu'on puisse créer des petits emplois pour que ce ne soit pas nécessairement sur le plan macro-économique. Donc, que ce soit des petites industries qui peuvent fonctionner et qui demandent souvent pas beaucoup de grands fonds. Merci, Corné de Canada, de votre proposition. Clément, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal.
Nous vous écoutons, Clément.
Je suis participé dans l'émission Parole Sociétaire. Mm-hmm. Et surtout pour le sujet de ce jour, qui est une des questions de mon travail.
Mm-hmm.
Moi, je dirais que pour créer des emplois, pour soit faire la promotion des emplois, il y a trois éléments nécessaires. Il faut un déplacement, l'intervention financière et la formation de main-d'œuvre. Comment se fait le placement? Le placement se fait par des billets de l'ONEM. Les chômeurs vont là-bas, ils vont se faire inscrire. Et les entreprises viennent donner des informations à l'ONEM concernant les postes vacants et concernant aussi les licenciements. Et lorsque l'ONEM est informé de ça, et il peut prendre les noms des gens qui sont venus se faire inscrire et envoyer des entreprises qui sont venues donner des informations. Et ça, c'est le placement. Les interventions financières, cela se fait par le biais des fonds de promotion pour l'industrie. Et ça, à travers cet organe-là, peut financer les PME, les petites et moyennes industries, les petites et moyennes entreprises, afin de favoriser que ces PME-là puissent avoir besoin des travailleurs. Autre chose, est que, après avoir donné ces trois éléments, je conseille aussi à l'État congolais de ne pas multiplier les universités, mais plutôt de créer les écoles professionnelles. Madame, ce n'est pas seulement le chômage qui domine, il y a aussi des sous-emplois. Qu'est-ce qui va servir à quelqu'un d'étudier la licence pour devenir sentinelle? Et madame, au lieu de créer des universités, au lieu de multiplier des universités, il faut multiplier des écoles professionnelles, des écoles et des métiers. Mm-hmm. C'est ça ma contribution.
Merci Clément de Lubumbashi de votre intervention. Nous allons redonner la parole à notre invité.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Georges Combeau, deuxième série d'auditeurs. Comment créer l'emploi? Confiance, estime que d'un côté il y a l'État, de l'autre côté il y a les secteurs privés. Clément de Lubumbashi, voir dans quelle mesure financer les petites et moyennes entreprises et aussi voir dans quelle mesure orienter la jeunesse vers l'apprentissage des métiers. Quelle est votre réaction?
Bon, merci madame. Je salue ses camarades et je leur dis que j'aimerais la situation. Aujourd'hui, tout ce qu'ils évoquent là dénote de la théorie. Parce que notre drame, c'est que chaque jour, nous formons les enfants. Chaque année, nous produisons des nouveaux chômeurs. Chaque année. Et chaque année, ceux qui travaillaient s'abrutissant par défaut de rémunération conséquente deviennent aussi des chômeurs. Ça, c'est notre problème. Ce qui implique une politique. Ça, je me répète parce que c'est très important. Et les autres aussi apprennent dans le même sens.
la volonté politique.
Oui, il faut une politique en la matière. Mmh. Et la volonté politique dont il est question ici ne doit pas être un simple slogan de dire nous allons créer des emplois. On ne crée pas les emplois uniquement par la volonté. Il y a des auditeurs qui s'étonnent que voilà, ce monsieur a fait 50 ans, 30 ans, il ne veut pas quitter, ou il a des enfants, il favorise ses enfants. Mais d'abord, pour quitter un emploi chez nous, vous êtes d'accord avec moi, mm-hmm. que la retraite, c'est la mort. Mm-hmm. Dès que quelqu'un, même s'il ne touchait pas une petite prime, parce qu'après on fait la prime, mais quand on lui dit, c'est fini, rentrez chez vous, bah, il est mort.
Parce qu'en fait, on constate que la prime est plus élevée que le salaire. Or, c'est sur le salaire qu'on peut retenir une certaine somme pour la pension, et c'est assez minable.
Et voilà, justement. Parce que, vous savez, généralement, maintenant, il y a la notion de rémunération qui contient le salaire plus des primes, mmh. les différentes indemnités. Mais cette rémunération, elle n'est plus payée. Parce que, bon, tous ces avantages-là ne sont plus pris en compte. Alors, ce qu'on donne, ce sont des forfaits, mm-hmm. qu'on appelle communément une prime. Bon, mais dans votre retraite, le jour où vous aurez cessé de travailler, mais personne ne va considérer cela. Parce que, quand vous terminez le travail, vous devenez un pensionné, vous devez commencer maintenant à bénéficier des économies que vous avez réalisées. Mm-hmm. Bon, aujourd'hui, si nous n'avons pas un volume important de ceux qui cotisent ou de ceux qui vont cotiser demain pour ceux qui font partie, cela veut dire que le régime de sécurité sociale chez nous est par terre. Mmh. Le régime est presque inexistant. Parce que quand vous avez des personnes qui ont travaillé, un secrétaire général de l'administration qui vous sort avec, je ne peux pas signaler le montant ici, en tout cas moins de $20 par... Alors, en ce moment-là, comment voulez-vous que cet homme qui était secrétaire général, cet homme qui était, je ne sais pas moi, un grade élevé ou quoi, ou que cet homme qui a travaillé, cet homme...
C'est au grade de l'administration, secrétaire général.
Je dis bien, je savais, quelqu'un parlait hein, de la tension salariale de 1 à 10. Si le secrétaire général a 100, c'est qu'il faut que le travailleur doit avoir 1, doit avoir 10. Mais ce n'est plus le cas. Alors, moi je dis, nous créons chaque jour des chômeurs. Et de ceux qui sont là comme travailleurs ou simplement des gens qui font semblant de faire partie de figurer, les 4% que vous avez parlé au niveau du secteur formel, mm-hmm. les 4%, madame, ce sont des gens pour la plupart qui ne bénéficient même pas d'un contrat de travail. Aujourd'hui, les gens, pour avoir un contrat, ce sont des contrats sont presque toujours à l'excès. Après une période, on vous licencie et puis on vous réengage. Quand un employeur a fini, il donne à son frère la dénomination de la même entreprise et on recommence. Donc, on a beaucoup plus de chômeurs parce que les contrats réels sont presque inexistants.
Et que pensez-vous de l'avis de Clément qu'il faudrait réorienter la jeunesse vers des écoles professionnelles, techniques professionnelles?
Oui, mais c'est très l'idéal. Hein, les écoles professionnelles, ce sont celles-là qui nous ont aidés hein, à l'époque. Et parce qu'aujourd'hui, on a la confusion. Vous savez que même à l'étranger, les universitaires, l'université n'est pas donnée à tout le monde. Normalement, on doit aller à l'université pour une catégorie de gens donnée. Mais actuellement, il y a une carence dans le métier. Vous avez pour avoir un cordonnier, avoir un charpentier, un soudeur, un maçon et consort. Mm-hmm. Ces gens ne doivent pas nécessairement être des ingénieurs. Ils sont des travailleurs qualifiés. Mm-hmm. Ils doivent apprendre.
Et valoriser aussi ce métier-là, parce qu'apparemment, certaines personnes estiment si on est cordonnier, on est plombier, c'est pas un métier valorisant.
Mais madame, si ce n'est pas un métier valorisant, et ceux qui, malgré la détention d'une licence, sont des pousse-pousseurs aujourd'hui, est-ce que je dirais que leur diplôme est valorisant? Mm-hmm. C'est ça le comble.
Oui, il y a aussi cet avis de Christian de Kisanani. Bon, c'est une question, il se pose la question de savoir, est-ce que lorsqu'on ouvre une cabine téléphonique, est-ce que c'est créer de l'emploi?
Mais ça, vous devez vous informer, mais vous avez ouvert une cabine téléphonique. Vous vous êtes créé un emploi à vous. Mais si cet emploi-là est un véritable revenu, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Vous avez, c'est quelque chose, c'est des saupoudrages. Le travailleur, c'est un autre. Si vous êtes un employeur à votre cabine, là, vous-même, pour vous, pour votre petit commerce, ça c'est vous. Mais est-ce que vous créez des emplois? Vous êtes engagé, vous avez une petite, je ne sais pas moi, une certaine subsistance pour vous-même. Mmh. Et encore éphémère parce que vous n'avez aucune sécurité sociale dans ce que vous avez gagné comme détenteur d'une cabine téléphonique. Mmh. Mais le travail, c'est un contrat. Et là, quelqu'un qui a dit, le premier employeur, c'est l'État. L'État est employeur non seulement parce qu'il a le secteur public, mais l'État est aussi employeur parce qu'il coordonne, il supervise la politique salariale de l'ensemble des secteurs privés. Mm-hmm. Parce qu'il doit modeler ce secteur-là, doit soutenir l'emploi des nationaux. Aujourd'hui, on voit des étrangers qui font le travail réservé normalement aux nationaux. Il y a des gens qui viennent ici sous forme de ils viennent avec leur marché, mais dans ce marché, vous trouvez les chauffeurs, vous trouvez des bons chauffeurs, vous trouvez des petits conducteurs, alors que vous avez ici des ingénieurs, vous avez ici beaucoup de cadres, mais qui sont au chômage. Et puis, alors, voilà, on dirait nous avons 4%, avec joie peut-être, mais quelqu'un a dit qu'il était malheureux d'être congolais, tant qu'on doit le situer parmi ses habitants. 4%, madame, mais vous êtes révoqué du gouvernement, vous êtes révoqué du pouvoir.
Et c'est l'avis de Sengui qui, au tout plus au début, qui a souligné que ce ne sont pas les compétences qui manquent. En écoutant nos auditeurs, est-ce que c'est une question d'organisation de toutes ces compétences?
Non, ce ne sont pas les compétences qui manquent, mais c'est une question de c'est-à-dire que si nous avons des compétences, mais nous acceptons les compétences étrangères au détriment des nôtres. Vous savez, moi je vous assure, quand vous allez en Afrique du Sud, la plupart des médecins qui sont là-bas, ce sont des médecins originaires de chez nous. Vous allez dans beaucoup de pays environnants ici, les cerveaux moteurs des gens qui sont là-bas, les bâtisseurs et consorts, ce sont des Congolais. Mais c'est parce que chez nous, ils ne sont pas bien rémunérés. Chez nous, ils ne sont pas bien motivés. Chez nous, leur produit, leur intelligence ne se retrouve pas dans ce marché de l'emploi. Donc voilà, il faut qu'ils fuient ici et ils sont ailleurs. Mais ceux qui n'ont pas la capacité de fuir l'enfer du Congo, ils s'aboutissent.
Voilà, autant de défis que doit relever le gouvernement qui vient d'être mis en place. Monsieur Georges Kombo, restez avec nous, écoutez Nelson de Goma, Marc de Lumbashi. Nous allons lire aussi quelques messages parce que nous tendons vers la fin de cette émission.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
De Goma, bonjour Nelson. Nelson, bonjour.
Oui, moi je pense que l'État doit tout d'abord protéger les opérateurs économiques, tout en réduisant la taxe. Parce que beaucoup de la plupart de nos opérateurs économiques n'acceptent pas à un bon résultat, parce que leur taxe est très élevée. Lorsqu'on protège surtout aussi, soit de leur donner 6 mois sans payer la taxe, l'opérateur économique sera capable de récupérer son capital investi. Lorsqu'il le récupère, il sera capable de orienter notre activité qui va donner l'accès au sommet de travail et d'avoir beaucoup d'emplois. Voilà les seuls moyens que l'État doit faire pour protéger et pour donner beaucoup d'emplois à nos sommets.
Merci Nelson de Goma. Nous avons ce message de Fabrice qui se trouve également à Goma. J'espère que le gouvernement doit chercher une bonne stratégie pour faciliter les investisseurs étrangers et nationaux de bien faire fonctionner leur activité. Le chômage est dû par un manque des investisseurs. Papi nous écrit ceci, rien n'est facile pour le Congolais, car même les travailleurs souffrent au même titre que les chômeurs. Parfait, de Bukavu, c'est vrai que l'on étudie, mais il n'y a pas d'espoir de trouver un travail au Congo. Soit on travaille pour être trop riche grâce au vol, au détournement, ou très pauvre suite à une mauvaise paye, d'où on peut classer le nombre des travailleurs à 20%. C'est la population en RDC. Maxime Akemani, il suffit de mettre en place une bonne politique d'emploi en favorisant un bon climat des affaires. Il faut alors une forte volonté politique. Olivier de Kinshasa en RDC, la politique de création d'emplois n'existe presque pas. En RDC, il faudrait à tout prix qu'on puisse mettre en place et concrétiser tous ces beaux discours de nos politiciens. Parfait, encore que le Congo, mon pays, cherche à profiter d'une main-d'œuvre abondante. Donc, pour parfait, il y a suffisamment des compétences. Il faudrait mettre tout le monde au travail. Ézéchiel, qui se trouve à Kiwanja, je pense qu'il faut lutter contre le cumul de fonctions, relancer la construction des infrastructures, la création des industries, lutter aussi contre la prolifération des universités. Voilà ce que pense Ézéchiel, qui se trouve à Kiwanja, dans le Nord Kivu. Marc, vous êtes notre dernier auditeur. Bonjour, Marc.
Bonjour, madame.
Nous vous écoutons. Que faut-il faire pour créer de l'emploi?
Oui, je voulais juste proposer, madame, que le gouvernement favorise un peu le climat de sécurité pour que les investisseurs, les gens qui ont beaucoup de moyens, puissent avoir intérêt à venir investir chez nous. Ensuite, pour que l'État s'implique vivement, vraiment, dans l'électricité, nous voyons les électeurs qui sont, les petits électeurs qui sont chez nous ici, qu'est-ce qu'ils sont quand ils viennent de chez eux pour venir investir dans les domaines du tour et des mining? Eh bien, 80% de la main-d'œuvre est expatriée. Ils viennent avec leur main-d'œuvre. 80%, on dirait vraiment, sont des expatriés. Et les quelques 20%, bon, c'est juste les gens qui prennent ici pour faire jouer le rôle du sentinelle, le rôle du chauffeur, le rôle du jardinier. Alors, il y en a que, vraiment, l'État s'implique vraiment dans ces choses.
Voilà, merci Marc de Lubumbashi. Donc nous avons écouté l'ensemble de nos auditeurs, même ceux qui nous ont écrit, avec notre invité, parce que nous cheminons vers la fin de cette émission, M. Georges Kombo. En écoutant tous nos auditeurs, on peut dire qu'il y a principale cause qui favorise ce chômage, notamment il y a la dégradation, la destruction de l'outil de production, le mauvais état des infrastructures de communication, le faible taux d'accroissement des investissements, il y a aussi cette guerre et ces conflits armés qui persistent dans certaines zones en RDC, il y a les tracasseries administratives, il y a quelqu'un qui a parlé des taxes et la surtaxe, il y a cette insécurité juridique au regard des opérateurs économiques qui se plaignent aussi d'un mauvais climat des affaires. Il y a aussi certains qui ont essayé d'insinuer aussi une mauvaise gouvernance, aussi la corruption. Donc voilà autant de problèmes qu'il faudrait à tout prix trouver des solutions pour créer davantage de l'emploi. En conclusion, Monsieur Georges Kombo, c'est vrai que c'est assez difficile, c'est un travail de longue haleine, nous savons que c'est tout un processus, mais à votre avis, il faudrait combien de temps pour arriver à diminuer ce taux de chômage de 96% du secteur formel?
Madame, je vous remercie, comme nous sommes vers la fin, comment faire pour diminuer ce taux de chômage? Évidemment, si seulement votre résumé pouvait être connu des décideurs, et si aussi, connaissant ce résumé, les décideurs pouvaient faire bon usage pour corriger, hein, parce que c'est ça le reflet même de l'actualité dans les domaines de l'emploi, ce serait bien une piste. Mais, comme je l'ai dit, tout dépend maintenant de ceux qui ont aujourd'hui la charge de l'État. Je pousserai même le raisonnement en vous demandant, maman, si vous pouvez envoyer une cassette de ce genre d'émission au Premier ministre, aux ministres qui ont maintenant la compétence de juger de l'opportunité de changer l'ordre des choses, parce que vous savez, tout est possible avec la volonté. Même si vous n'avez pas de moyens, mais si vous voulez, celui qui veut peut. Le Congo regorge énormément de possibilités. Parmi ces possibilités, il y a l'homme. L'homme congolais, patient, cet homme vraiment fidèle, qui accepte tout.
Et qui a de l'espoir. Hein. Beaucoup d'espoir.
Oui, évidemment, qui accepte tout. Même si ce n'est pas humain, mais il accepte. C'est donc une capacité. Alors qu'on exploite cette capacité pour permettre à ce Congo d'avancer.
Mais
c'est ce que, en reprenant ce que vous avez dit. Alors, moi je crois que le gouvernement actuel, qui est du gouvernement des technocrates, et qui a comme ligne de conduite le changement, le bien, parce que la modernisation c'est le bien, le changement positif, technique, mais qu'on ne voie pas les choses de façon superficielle, voire la théorie, cette théorie à laquelle nous sommes habitués, qu'on descende, qu'on voie ce que nous fûmes il y a des années où le Congo avait droit de citer, qu'on était premier de ceci, premier de ceci, premier de ceci. Et quand vous êtes premier producteur de telle matière, évidemment, vous ne pouvez pas avoir un taux de chômage qui frise l'anéantissement de l'homme. Moi, je crois que si nos dirigeants peuvent tenir compte de ces capacités que le Congo dispose, ben, je crois que le changement pourrait intervenir dans l'année, dans une année, dans deux ans, dans dix ans. Mais il faut une programmation, il faut commencer. Commencer maintenant avec ce nouveau gouvernement.
Merci beaucoup, Monsieur Georges Kombo. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Congo. Nous disons également merci à tous ces auditeurs, ceux qui sont intervenus, que ce soit en participant en direct ou en nous écrivant à travers notre adresse internet pa@radiocapi.net ou notre page Facebook Parole aux auditeurs. Également merci à ceux qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention, que vous savez qu'on était en FM ou sur www.radiocapi.net.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Et nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. La Cour suprême de justice a rendu son verdict sur les contentieux électoraux des législatives de novembre 2011. 32 députés nationaux étaient invalidés. Que vous inspire cet arrêt de la France? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou encore en postant votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe de Parole aux auditeurs qui a produit cette émission, Titi Poutou, Pierre Lamézi et Guillaume Zangou. Entre temps, restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes.